J'avais peut-être très jeune eu l'impression d'être, abandonné, c'est un gros terme, là, mais dans la tête d'un enfant qui est à l'hôpital pendant plusieurs journées, tu peux avoir l'impression d'être peut-être, comme enfant, démontrer une espèce de sentiment d'abandon qui n'était pas le cas. C'était vraiment ma santé. J'ai déjà dit à ma fille, quand elle était plus jeune, d'apprécier, et à mon fils aussi, d'apprécier ce qu'on a dans la vie. Le remerciement, c'est une chose, mais l'appréciation de ce qu'on a. La santé, évidemment, qui est la base de tout, je pense. Quand on a la chance d'avoir un bon équilibre, évidemment, mental, puis les bras, les jambes, les membres physiques, on est encore dans la quarantaine, je suis conscient qu'on va vieillir, puis que je parle à des gens me disent « Ah, des bobos sortent et tout ça ». Mais quand tu es capable de te bouger, je pense que c'est la base. Fait que cette partie-là de ma vie m'a amené un grand apprécier d'être en forme. Ça, je l'ai transmis à mes enfants, ça c'est sûr et certain.
Bienvenue au 22e épisode de La Quarantaine, une série balado de 40 conversations avec des personnes de 40 à 49 ans qui se racontent. On prend le temps de se parler pour mieux se comprendre. Mon nom est Brigitte Gem et j'adore faire parler les autres. Ce projet, c'est ma manière de donner du sens à ce milieu de vie où on continue de grandir et où on peut encore se redéfinir. J'ai rencontré beaucoup d'amis en bordure du monde politique, mais parmi eux, si j'avais dû deviner celui ou celle qui avait le plus de chances d'un jour devenir conseiller municipal, j'aurais tout gagé sur mon invité d'aujourd'hui et j'aurais gagné mon pari. Pierre Brabant est urbaniste et, depuis 2021, conseiller municipal de la ville de Laval. Pierre est animé par une profonde éthique du service public. Il est tout dévoué à l'amélioration du milieu de vie de ses concitoyens. Au cours de l'entrevue, on parle des origines de sa famille à travers différentes régions du Québec, de l'impact qu'ont pu avoir ses nombreuses hospitalisations dans l'enfance sur sa famille, de l'importance du soutien de ses proches quand on décide de faire le saut en politique, ainsi que de son désir de ne pas remettre les bonnes choses à plus tard. Merci de partager ce moment avec nous. Bienvenue à La Quarantaine. J'ai le bonheur de retrouver aujourd'hui un ami que je n'ai pas vu depuis très longtemps. Il s'agit de Pierre Brabant. Bonjour Pierre.
Bonjour Brigitte.
Ça me fait plaisir de te voir et les gens ne nous voient pas, mais derrière toi, ton fond d'écran, c'est une photo de l'hôpital de la Cité de la Santé de Laval parce que tu es un fier Lavallois. Et j'ai très hâte que tu me racontes tes histoires. Et pour commencer, j'aimerais que tu me parles un peu de ton quotidien. Oh, avant, il faut que je te demande ton âge. Quel âge as-tu?
Oh, Brigitte, la question, écoute, 47, bientôt 48.
OK, alors tu es encore éligible. On est correct. Je voulais juste être certaine. Donc, parle-moi de ton quotidien. Parle-moi de ce que tu fais au jour le jour. Si j'envoie une équipe de télévision pour te suivre, qu'est-ce qu'on va voir?
Écoute, Brigitte, depuis le 7 novembre 2021, j'ai l'immense privilège d'être maintenant conseiller municipal dans le district de Vimont pour la ville de Laval avec l'équipe de M. le maire Stéphane Boyer. Donc, je l'ai fait par choix, bien sûr, de me lancer en politique. C'est l'appel du service public. Fait que je dirais que j'ai peut-être une vie qui... sans dire qu'elle sort énormément de l'ordinaire, mais une vie qui est un peu particulière parce qu'il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de moment, il n'y a pas d'horaire fixe. Il peut y avoir des événements en soirée, des événements tôt le matin. Et si une équipe de télévision serait avec moi, là, manifestement, ça se pourrait que les soirées pourraient être très longues parfois.
Donc, comment tu commences tes journées, où tu vis, avec qui, tout ça, juste la base et les différents chapeaux que tu portes?
Non, merci. Effectivement, j'ai le bonheur d'avoir ma conjointe, Céline Durocher, deux enfants avec mon épouse, bien sûr, ma grande fille qui va avoir 16 ans bientôt.
Oh, wow!
Mon fils qui a eu 11 ans. Donc, bien ancré avec la famille. Nous sommes mariés déjà depuis bientôt 8 ans. Et ça va faire, là, ça va me vieillir, bien sûr. Mais on est dans la quarantaine. Puis plusieurs personnes doivent nous écouter, ont la quarantaine ou peut-être plus, peut-être moins. Mais ça fait déjà 26 ans, là, cette année, que je vais connaître et que je connais mon épouse. Donc, la famille, évidemment, j'ai le bonheur d'avoir encore mes parents. Louise et Richard, mes beaux-parents Lucien et Diane, qui habitent, nos deux familles habitent bien sûr Laval. Et donc, j'ai le bonheur de pouvoir les voir régulièrement. Et je suis bien ancré, bien sûr, dans le milieu lavallois.
Wow! Et est-ce que le travail de conseiller municipal, c'est une job à temps plein? Comment ça marche?
Oui, dans mon cas, ce que j'ai fait un choix. Monsieur le maire m'avait nommé à 6 comités, commissions. J'ai le bonheur d'être, par exemple, à la Société de transport de Laval, puis comité consultatif d'urbanisme. Donc, plusieurs comités qui demandent beaucoup d'engagement. Et le choix que j'ai fait, puis bien sûr, c'est beau les comités, les commissions, mais la base, c'est d'être au service des citoyens de mon district électoral. Tantôt, on parlait de la Cité de la Santé, donc Vimont, au cœur de Laval, l'endroit où il y a l'hôpital de Laval, la Cité de la Santé. Donc, le choix que j'ai fait avec le niveau d'engagement que M. le maire s'attend de moi, le niveau d'engagement que j'ai pour la fonction, moi, j'ai décidé de prendre un congé sans rémunération de mon emploi principal pour la durée du mandat et plus, afin d'être vraiment là, au service, de ne pas avoir à conjuguer des fois des conflits d'horaire entre l'emploi principal, la vie de famille aussi, bien sûr, qu'il faut marier, mais la beauté dans ma situation, c'est que c'est un choix de famille. Autant mon épouse, mes enfants font partie de la même belle aventure. Puis ça m'aide beaucoup, beaucoup à pouvoir faire mes trucs, faire les choses sans être dans le sentiment de culpabilité, des fois de peut-être manquer un événement familial. Mais je sais évidemment, lorsque c'est possible, d'être le plus présent pour tout le monde.
C'est un équilibre auquel on peut aspirer, mais c'est jamais tout à fait possible de réaliser à 100%, j'imagine.
C'est vrai, ça te soulève un bon point, Brigitte, mais ce qui m'a aidé beaucoup vraiment, l'engagement de la famille durant la campagne électorale, mon père a fait des appels téléphoniques pour moi. Ça m'a touché beaucoup qu'il ait pris de son temps. Peut-être pas une personne très politisée quand même, qui connaît la politique, mais qui a décidé de s'investir. Fait que non, c'est effectivement, c'est une balance. Et puis, la famille est quand même la base de tout. Ça, c'est vrai.
Qu'est-ce que tu faisais comme emploi à temps plein avant?
J'étais inspecteur au service d'aménagement, développement du territoire dans une municipalité de la Couronne-Nord. Donc, vraiment, là, au quotidien avec les citoyens. Je suis également urbaniste, membre de l'Ordre des urbanistes. Au bureau, par contre, les fonctions, de par la taille de la municipalité, j'étais plus sur le terrain, mais ça m'a amené beaucoup à avoir une belle connaissance des enjeux des citoyens, puis m'assurer là, avec le respect des règles, des règlements et des règles de la municipalité, m'assurer de répondre à leurs besoins aussi.
Merci beaucoup pour le tour d'horizon. J'ai l'impression de mieux voir à quoi ressemble ton quotidien. On va prendre une pause de tout ça pour reculer 40 ou 400 ans en arrière. C'est selon ce qui te convient pour parler de tes racines, de tes origines. D'où viens-tu?
Oui, ça c'est bien ça. Du côté de la famille Brabant, les racines familiales sont dans le secteur de Vaudreuil-Dorion, précisément, je dirais plutôt même Autun, dans ce grand secteur-là. Donc, la famille paternelle étant du côté de ma grand-mère paternelle, que bien sûr mon grand-père paternel, les deux venaient également de cette même région-là. Et du côté maternel, c'est plus dans la région qu'on pourrait dire, de l'Amiante, la région de Thetford Mines. Et même chose, là, deux grands-parents qui venaient de cette belle région qui fait face à toutes sortes de défis, là, évidemment, mais vraiment des racines québécoises, des racines, deux endroits assez loin du Grand Montréal.
Mais plutôt agricole, est-ce que c'était des gens qui avaient des fermes ou…
Non, ça c'est une bonne question. Non, peut-être pas côté paternel. Faites certaines cultures sur le terrain, oui, mais surtout des gens qui accueillaient des gens, la vie avec les voisins, patinoire, cabane à sucre familiale, ça, la famille serait contente, ils vont être contents de l'entendre. Du côté de ma mère, c'était vraiment plus urbain, là, vraiment dans Thetford Mines, là, vraiment plus dans le noyau urbain. Et puis là, si tu me demandes un peu les prédécesseurs, c'est à peu près l'information que j'ai.
Ouais. Comment vous vous êtes retrouvé à Laval? Donc, en fait, est-ce que ta famille s'est implantée à Laval tout de suite? En fait, compte-moi l'histoire.
Non, le lien, effectivement, le lien est excellent. Mon père, je vais faire sourire des gens qui vont écouter le balado. Mon père a travaillé pour la compagnie Woolco. C'est drôle, on reparlait de tout ça en fin de semaine même. Donc, la compagnie Woolco, les magasins rayons, fait plusieurs emplois, mais un de ses emplois à l'époque principal, Woolco, et cette compagnie-là, dans sa vague d'expansion des années fin 60, début 70, ouvrait plusieurs magasins dans plusieurs villes. Ma mère était à cette époque-là dans la région de Granby. Donc, eux avaient quitté Thetford Mines, étaient rendus à Granby. Et mon père, pour cette entreprise-là, avait procédé à l'ouverture du magasin Woolco de Granby. Ma mère était, à ce moment-là, chef caissière. Puis là, on commençait à se fréquenter à ce moment-là par la suite. Fait que c'est vraiment un contexte d'entreprise, on peut dire, d'emploi, qui a fait que mes parents se sont rencontrés. Par la suite, ils ont déménagé dans le coin de Drummondville. Je suis né même à Drummondville. Ça, il faut être factuel. je suis né à Drummondville et on a vécu une certaine période dans le coin de Pierrefonds par la suite. Mais vraiment arrivé à Laval aux alentours de 1978. Donc, c'est un contexte d'emploi qui a fait que mes parents se sont rencontrés.
Wow! C'est le fun d'avoir ces histoires-là parce que si on ne les enregistre pas, elles vont se perdre. Puis je trouve ça le fun de penser au hasard de la vie qui ont fait que nos parents se rencontrent. En tout cas, je suis contente que tu saches l'histoire et que tu la partages avec nous. Donc, parle-moi un petit peu de ton enfance à toi dans ce contexte-là. En 78, tu étais pas mal petit. Là. Qu'est-ce que ça voulait dire de grandir à Laval à la fin des années 70, début des années 80?
Oh mon Dieu! Laval, je l'ai dit à beaucoup de citoyens, puis d'entrée de jeu aujourd'hui, c'est bien sûr, c'est le citoyen Pierre qui peut parler de politique, mais évidemment, je ne veux pas engager le conseil municipal, ni évidemment M. le maire, là, c'est vraiment M. Brabant, comme on dit. Le Laval que j'ai connu à cette époque-là, c'était vraiment plus banlieue, là. C'est pas le Laval, il n'y a pas de place belle à l'époque. Le métro a été ouvert en 2007. Pour ceux qui ont grandi ou qui ont vécu longtemps à Laval ou qui vivent toujours, notre ville a vraiment progressé. Le statut de la ville a vraiment changé avec pour le bien, avec l'ouverture, bien sûr, du métro, puis des grands équipements. Fait que donc, c'était vraiment banlieue, tranquille. Mon père, à ce moment-là, travaillait, quand j'étais très jeune, il était encore au Woolco, au centre Laval. C'était particulier de rentrer dans le magasin, d'entendre le nom de son père dans le micro, qui était demandé pour tel ou tel truc. Ça, j'ai des souvenirs de ça. Et puis, j'étais chanceux. Les écoles, les deux écoles primaires que je suis allé, 1 à 4, 5 et 6, les deux écoles étaient une à côté de l'autre. L'école Sainte-Cécile, Saint-Gérard, la maternelle Le Sorbier. Les noms ont changé. Les écoles sont toujours aux mêmes endroits. J'étais chanceux, c'était pas très loin quand même de la maison. Par autobus, ma génération autobus jaune, ça, on n'avait pas le choix. Mais non, une belle enfance, je dirais. Je vais peut-être faire cliché, je ne dis pas qu'on était riches, loin de là. On n'était pas non plus classe moyenne, je dirais. Pas supérieure. Moyenne. Moi, je n'ai rien manqué à la maison. Je suis fils unique, faut que je le mentionne. je suis unique. J'aurais beaucoup aimé, jeune, avoir un frère ou une sœur, mais j'ai été asthmatique. Ça, des fois, j'y pense moins, mais jeune, j'ai fait beaucoup de crises d'asthme. Puis à cette époque-là, c'était vraiment... Les traitements ont évolué. Mais à l'époque, c'était vraiment des traitements à l'hôpital. Fait que ça, ouais, ça fait longtemps que je ne vais pas trop souvent à cette place-là parce que j'ai été quand même assez souvent à l'hôpital pour m'en rappeler encore aujourd'hui. Puis, mais ça fait partie de mon histoire. Puis, je regarde... on fait le bilan de la quarantaine aujourd'hui. Chère Brigitte, je dois en faire le bilan aujourd'hui quand même.
C'est vrai, hein, tu dis ça, j'avais complètement, j'avais pas repensé à ça, mais je me souviens, à l'école primaire, il y avait un petit gars dans ma classe qui était asthmatique aussi, puis tu sais, il faisait une crise d'asthme, puis c'était très dramatique. Puis mes enfants, je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un dans leur classe, et ils ont du ventolin dans une pomme, puis c'est tout, tu sais. ça a complètement changé le traitement de l'asthme, comme tu dis, mais
oui.
Quel impact tu penses que ça a eu sur ta jeunesse, tes premières années de vie, de vivre avec ça?
Ça peut faire du bon matériel, comme dirais, pour une entrevue. je fais une blague. Mais j'ai peut-être eu, je sais de quoi j'ai jasé un moment donné, là, faut que je fasse écouter l'entrevue à ma mère. Je pense qu'elle serait fière de moi. J'avais peut-être très jeune eu l'impression d'être abandonné, c'est un gros terme, là, mais dans la tête d'un enfant qui est à l'hôpital pendant plusieurs journées, tu peux avoir l'impression d'être quand tu es très jeune. Je n'ai pas de souvenir de cette partie-là. Là. Ça, c'est ma mère qui m'en a reparlé à un moment donné. Fait que peut-être, comme enfant, démontrer une espèce de sentiment d'abandon, ce qui n'était pas le cas. C'était vraiment ma santé. Fait que ça m'a amené... des fois, j'ai déjà dit à ma fille, quand elle était plus jeune, d'apprécier, et à mon fils aussi, d'apprécier ce qu'on a dans la vie. Ça m'a ramené beaucoup à... Le remerciement, c'est une chose, mais l'appréciation de ce qu'on a. Puis la santé, évidemment, qui est la base de tout, je pense. Quand on a la chance d'avoir un bon équilibre, évidemment, mental, puis les bras, les jambes, les membres physiques, puis on est encore dans la quarantaine, je suis conscient qu'on va vieillir, puis que quand je parlais des gens me disent « Ah, des bobos sortent » et tout ça, mais quand tu es capable de te bouger, je pense que c'est la base. Fait que cette partie-là de ma vie m'a amené un grand apprécier d'être en forme et puis apprécier, ça je l'ai transmis à mes enfants, ça c'est sûr et certain. Tu sais, quand ils sont jeunes, des fois, c'est normal, on a tous passé là d'en vouloir plus, mais à un moment donné, de revenir et de dire qu'il y en a qui ont moins, il y en a qui aimeraient avoir plus, ça, c'est dans mes valeurs également.
Un peu de gratitude pour le miracle même de notre existence, n'est-ce pas?
Ouais. Ouais. Ouais.
Qu'est-ce qui t'arrive ensuite, après le primaire? Comment ça se passe?
Oui, après le primaire, bien sûr, le secondaire. Secondaire qui s'est bien passé. Une personne m'avait fait la vie dure. La vie dure, c'est un gros mot. J'ai rendu au secondaire 5, ça a été la grosse poignée de main. Puis, on fait notre carré de sable un peu. Hein? C'est avec le recul, tu t'en rends compte. Mais non, un bon secondaire, bonne école. L'école secondaire à l'époque, le Mont-Lassalle, une institution quand même réputée pour l'époque. Donc, un bon secondaire. Puis par la suite, évidemment, là, ça me demandait on va arriver au choix de carrière, puis on va arriver aux grandes questions existentielles. J'ai eu la chance de travailler à 14 ans, j'ai travaillé dans un dépanneur. Ma mère travaillait là. Ça, j'ai apprécié. Puis c'était juste le samedi, dimanche. Je vais faire sourire les gens, là, 5 $ de l'heure, 14 heures semaine. Ça se calculait assez simplement. Fait que ça, j'ai la chance à 14 ans de goûter un peu, avoir un petit peu de sous, juste pour dire. Puis par la suite, à 16 ans, j'envoie des CV, puis j'ai la chance. Puis pour moi, quand je parlais de Laval tantôt, c'est un beau retour parce qu'à 16 ans, j'ai eu la chance de travailler dans un parc. J'ai eu la chance de travailler, dans le fond, au service des loisirs de la ville de Laval. Fait que pendant quasiment plus ou moins 8-10 ans là, de mémoire, une bonne dizaine d'années probablement. Non, peut-être pas 10, mais en tout cas, bref, pendant un bon bout de temps. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'en 91, j'ai eu la chance de travailler dans un parc, moniteur de parc. La réflexion pour le choix de scolarité était assez simple. Le service public m'intéressait. Travaillais à l'époque aux Villes de Laval. Je m'y plaisais. J'aimais être au service puis des citoyens, d'être l'organisation. Puis j'ai toujours eu un intérêt pour la forme urbaine, les bâtiments, les buildings. Ça aurait pu peut-être m'envoyer à l'architecture, je remarque peut-être. Mais le choix était fait vraiment sur l'aménagement, l'urbanisme, s'assurer de l'intégration, là, de, bien sûr, là, des bâtiments, de la vie, là, dans des milieux de vie, dans les milieux urbains. Fait que j'ai fait le cégep des cours assez généraux, là, sciences humaines, profil, histoire des sociétés, si mon souvenir est bon.
À Laval.
Oui, à Montmorency, un fier finissant de Momo, m'était impliqué à l'association étudiante à cette époque-là. Fait que, un fier finissant de Momo et par la suite, c'est ça. Je vais en urbanisme à l'UQAM, fait mon bac là-bas. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un petit contrat au service d'urbanisme de Laval. Par la suite, là, j'ai envoyé. Mais j'étais à l'époque, Brigitte. Plusieurs vont s'en rappeler, malheureusement. Là, l'époque, déficit zéro, M. Bouchard, déficit zéro, c'est-à-dire donc les organisations publiques dans le municipal, surtout, là, il y avait des grosses coupes. Là, je me considère chanceux. Je me rappelle avoir parlé à des gens qui ont vécu, évidemment, 80, 82, la grande récession où il n'y avait pas d'emploi. Je suis arrivé dans une époque où il n'y en avait pas beaucoup. C'était plus difficile, mais par la suite, là, j'ai pu travailler pour la municipalité de la Couronne-Nord.
Je vais tricher en utilisant quelque chose qu'on s'est dit avant l'enregistrement, mais tu as choisi d'étudier en urbanisme, mais il y avait d'autres carrières qui t'intéressaient.
Ah oui.
Donc maintenant qu'on parle des choix, on y est rendu. Parle-moi un peu des autres options. que tu as envisagé, que tu aurais désiré, d'autres choses que tu aurais pu faire?
Non, effectivement, il ne faut pas que je le sculpte. Il faut dire que c'était assumé à ce moment-là, très, très jeune. On se ramènerait peut-être plus au primaire. Policier. Quand j'étais petit, je jouais aux bandits pour voleurs, puis ces trucs-là. Là. Ça, c'était de quoi que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Toi, tu n'étais pas le bandit, juste pour être clair, là.
Non, je confirme. Toujours du côté de la... Je ne prendrai pas la phrase cliché de la loi et l'ordre, là, parce que ça, c'est un autre concept. Mais plutôt, là, jouer aux policiers. Fait que oui, mais j'ai eu un petit enjeu avec les genoux. Les genoux avaient eu des... Ouais, je me rappelle être tombé, là... Ouais, au Parc Saint-Claude. Parc Saint-Claude, une petite course. Les Olympiades de fin d'année, je tombe au sol, problème de genou. Puis par la suite, c'est investigué, puis un problème par la suite même au secondaire. Et puis mes deux genoux, le gauche, le droit, ont été opérés. Fait que donc, à partir de ce moment-là, la capacité physique, que ce soit la course ou tout ça, devient diminuée. Fait que toute la partie, mettons, police, cette partie-là, là, au secondaire, j'avais mis vraiment une croix là-dessus, là, peut-être secondaire 3 même. Et c'est pour ça que je faisais le lien tantôt, le parc. Ça, c'est vrai que c'est le template là, du moment. C'était vraiment quand je travaillais pour le parc, je me suis dit, je voudrais travailler à la ville. Et puis, l'intérêt du bâtiment était quand même déjà là. Donc, c'est. Oui, la vie nous mène, je crois, au destin, beaucoup, beaucoup. Beaucoup dans le sens d'être des fois de bonnes rencontres qui nous amènent à d'autres endroits. Puis je n'ai vécu de ces rencontres-là dans ma vie. Il m'a amené à aller ailleurs. Puis, ouais.
Et peut-être guidé un peu ou gentiment poussé par des coïncidences qui n'en sont peut-être pas. On ne sait pas.
Oui, oui, évidemment, je ne tombe pas dans le côté, là, pas dire ésotérique là, de la chose, là, je ne veux pas manquer de respect, mais vraiment, oui. Je me rappelle très bien au Cégep Montmorency d'avoir une bonne discussion. C'est le, je pense à l'époque, le monsieur responsable des ressources matérielles. Puis j'y parlais que j'avais peut-être une chance d'avoir un emploi, puis il m'avait juste fait comprendre d'y aller, de foncer. Puis après coup, oui, ça m'a amené ailleurs. Évidemment, on prend chacun nos décisions, mais les opportunités des belles rencontres, elles ont ben, elles ont leur raison d'être. En tout cas, des fois, on ne s'en rend pas compte sur le coup, là, mais...
Parle-moi un peu de la question du service public, parce qu'il y a des gens qui viennent d'une dynastie de service public, disons, mettons. Mais comme tu as mentionné, tes parents étaient plutôt dans le domaine du secteur privé. Comment tu penses que c'est né en toi cette volonté-là de servir le public, de travailler pour, je le dis avec sérieux, le bien commun, tu sais, d'essayer de travailler dans cette direction-là? D'où ça vient pour toi?
D'aussi loin quand même, je me suis toujours intéressé à la chose publique. Ça, oui, même, puis je vais te répondre, Brigitte, mais je viens d'avoir un flash, puis je pense quand même depuis l'exercice.
Vas-y, vas-y.
Non, mais je me rappelle très bien qu'en deuxième ou troisième année primaire, j'étais abonné au Journal de Montréal un bout de temps. Là. Dans le sens, pas l'outil, mais la connaissance de ce qui se passait dans la société, les mouvements, ça m'a toujours quand même intéressé. Et l'action publique, le bien public, ça a toujours fait partie. Et j'ai eu la chance au cégep. Il y a eu ce qu'on appelait à l'époque forum étudiant. Donc, forum étudiant, une simulation des travaux de l'Assemblée nationale organisée pour le niveau du cégep. Et par la suite, il y avait à l'époque, ça existe toujours, bien sûr, il y avait deux grandes écoles, le Parlement étudiant, le Parlement jeunesse, deux grandes, ouais, on peut les qualifier d'institutions, qui organisaient eux aussi des simulations de travaux parlementaires. Fait que j'ai fait le Parlement étudiant pendant de nombreuses années. Et toute la notion de politiques publiques, le bien commun, penser à la masse, faut tenir compte des besoins individuels, c'est clair, mais ça prend des fois une vision collective, des choix collectifs qui des fois sont peut-être difficiles à comprendre, mais qui ont une finalité, puis qu'il faut faire connaître l'objectif. Fait que ce bout-là a toujours été ancré. Puis là, je me ramène à mon fameux parc, où là, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et l'urbanisme m'intéressait. Développer des quartiers, m'assurer que les quartiers répondent aux besoins. Fait que le lien, mais la partie politique, je ne vais pas manquer de respect, l'école du Parlement étudiant est une école incroyable. Les gens que j'ai connus, c'est des gens formidables. Plusieurs personnes, ce n'est pas la majorité. Dans l'exercice, moi, je suis allé jusqu'au fond des exercices. Je donne l'exemple dans la simulation. À un moment donné, je deviens ministre de la Sécurité publique, puis en tout cas d'autres responsabilités. Mais pour faire l'exercice, j'avais été prendre contact au ministère de la Sécurité publique. J'ai rencontré des personnes. Là, je me ramène à l'époque, c'était peut-être 18-20 ans. Tu rencontres des personnes aux communications du ministère. Puis j'avais réussi à me faire un contact par division, quasiment, au ministère de la Sécurité publique, pour au moins comprendre. Fait que je le ramène en disant service public, connaissance, puis une vision, puis ça m'a toujours accroché. J'ai aucune animosité, puis j'ai beaucoup de respect pour les entrepreneurs. Dernièrement, moi, une question m'est arrivée, puis. Moi, pour moi, la personne qui a bâti la grande entreprise aussi, là. Mais l'entrepreneur, j'ai un respect, là, franchement, à plus haut point, parce que je le sais que c'est de prendre des risques sans savoir nécessairement Il y a un objectif. Les moyens, des fois, peuvent être... fait que ça, j'ai un immense respect pour l'entrepreneur. Puis, mais dans mon cas, moi, rapidement, ça s'est placé en disant, moi, ça va être municipal. Des gens, à un moment donné, des fois, me disent souvent le provincial ou d'autres paliers ou peu importe, mais vraiment le municipal. Puis, quand je la ramène à ce que je fais actuellement comme action politique, bien, aider mon citoyen. L'engagement, moi, j'ai pris avec les citoyens dans mon secteur, c'est-à-dire, écoutez, je vais tout faire ce qui est possible de. Quand ça ne sera pas possible, je vais essayer de vous l'expliquer. Puis, évidemment, en souhaitant que la moyenne au bâton soit excellente, là, frapper pour plus que 300, là, évidemment. Mais c'est ça.
Je trouve ça intéressant que tu aies choisi le niveau municipal en particulier, surtout en pleine connaissance de cause, d'avoir travaillé avec le Parlement étudiant en pleine... pour être transparent ici, là, c'est comme ça qu'on s'est connus, toi et moi, j'étais avec toi au Parlement étudiant, puisqu'effectivement, on se prenait très au sérieux. Mais on en profitait, ça valait la peine, on avait la chance de rencontrer des sous-ministres, des directeurs généraux d'organisations publiques. Tu sais, c'était vraiment, effectivement, fascinant. Mais je trouve ça très intéressant que tu aies choisi le niveau municipal. J'ai mes petites théories là-dessus, mais j'aimerais t'entendre sur comment tu vois... Puis là, on n'est pas dans une émission d'affaires publiques. Là, on parle de biographie, mais je pense que c'est important. Comment tu vois ta capacité comme politicien municipal de, je mets ça clairement, là, changer le monde, changer ton monde. C'est quoi les leviers qui sont au niveau municipal qui t'attirent, qui te motivent à poursuivre ton action?
Ouais.
Puis ben, même dans ton travail aussi, là, pas juste comme conseiller municipal, mais aussi dans ton travail en urbanisme, c'est semblable. Là.
Non, effectivement, puis les deux se ressemblent. Les niveaux sont différents. Moi, j'ai la chance d'être passé d'employé de ville à conseiller municipal. C'est quand même exceptionnel. C'est un profil quand même particulier. Mais je dirais, peu importe le niveau, évidemment, chaque geste, des fois, régler, je vais le mettre au niveau micro, là, régler une problématique d'un citoyen, exemple, avec la ville, une mauvaise interaction, souvent des mauvaises compréhensions. Mais pour cette personne-là, c'est un enjeu qui est très important pour sa qualité de vie. Dans ma situation, avec ma connaissance, d'assister, d'aider, parfois on s'adresse au cabinet du maire, tu sais, d'essayer de voir qu'est-ce qui peut être fait. Dans le respect des règles, il n'y a pas de traitement particulier, mais des fois, juste d'aller chercher l'information. Moi, je le sais que pour un individu, une maison, ça change des fois tout. Fait que ce pouvoir-là, qui est au niveau municipal, apporte de la qualité de vie, du maintien de qualité de vie, même de la bonification pour parfois un individu, parfois ça peut être une rue, un secteur. Au niveau très macro, évidemment, avec les choix qu'on fait avec des fois les budgets de ville, le niveau de service, ça vient définir vraiment l'offre qui est faite, les outils, on a des outils en matière d'urbanisme.
Dis-moi pas Monsieur puis Madame un tel, mais qu'est-ce que ça fait une ville qui a tant d'impact que ça? Parce que la plupart des gens qui sont motivés à aller en politique ne sont pas allés en politique municipale. Ils pensent souvent à la politique provinciale, à la politique fédérale. Je pense qu'il y a quelque chose de spécial au niveau de la ville dont tu parles. Mais donne-moi des exemples.
Mais tu sais, c'est le premier palier. Sans manquer de respect, bien sûr, exemple au niveau fédéral, là, c'est l'exemple peut-être qui viendrait plus facilement, mais ça peut avoir de l'air anecdotique là, quand un bac de recyclage ou un bac à déchets n'est pas ramassé, mais c'est le B.A.B. de la qualité de vie. Parfois, et puis plus que parfois, là, c'est souvent seulement qu'une erreur de route ou c'est rien des fois de majeur, mais quand on se ramène, les gens vivent dans leur milieu, les gens vivent sur leur rue, dans leur milieu de proximité. Des fois, ces enjeux-là, puis quand ils ne sont pas adressés, tu n'as pas la bonne information, ça l'inquiète les gens. Peut-être pas le bon terme, inquiète, c'est le bon terme. Et à ce moment-là, ben, le fait d'accompagner, de poser des questions, d'assurer, de faire des suivis, tu as vraiment au niveau une action-réaction vraiment directe. Alors que sans Je le dis tout le temps comme ça, sans manquer de respect aux autres paliers. Des fois, les grandes, grandes politiques, la politique de proximité qui a un lien dans le quotidien des gens est fait au niveau municipal. Le niveau municipal actuellement est interpellé par les problèmes en habitation, les problèmes en environnement, les problèmes, la crise des changements climatiques. Les villes sont les premières au front à subir les pluies torrentielles, des fois la capacité des réseaux qui ne sont pas nécessairement conçus pour des pluies une fois au 1000 ans. Là, tu sais, je mets des exemples. Là. Fait que c'est, le municipal, moi, je vois tout le temps, gouvernement de proximité, c'est ce qui est mentionné souvent, mais ce n'est pas un cliché. C'est vraiment des gens se réfèrent à la ville. Le nid de poule, le fameux trou dans la rue, le déneigement, le ramassage d'ordures, la sécurité publique, l'environnement, la qualité du cadre bâti. Le municipal est dans toutes les sphères de la vie. Il ne faut jamais oublier le culturel, puis évidemment la connaissance, les réseaux des bibliothèques. Une ville, c'est vraiment un palier direct qui permet d'animer des quartiers. Est-ce qu'un gouvernement central donne un support en éducation, en santé, en transport, par exemple? Évidemment, il y a d'autres champs, là, mais le problème ou le premier palier est interpellé. Les gens vont cogner à leur ville, vont appeler leur conseiller ou conseillère municipale.
Parlons justement de cette décision-là. Tu y as fait allusion plus tôt, la décision de faire le saut de ton travail, peut-être qu'à l'époque tu ne savais pas, là, mais de ton travail comme employé vers un travail de conseiller municipal, vers un rôle de conseiller municipal. Parle-moi de cette décision-là. Est-ce que c'était la première fois que tu y pensais? Puis comment ça s'est déroulé?
Oui, je dois dire que j'ai été chanceux. À l'époque, avant M. Boyer, avant qu'on gagne l'élection avec M. Boyer comme maire, c'était M. Marc Demers qui était maire à Laval en la période de 2013 à 2021. Et j'ai eu la chance là, de connaître vraiment M. Demers aux alentours de 2016-2017, de commencer à voir l'équipe. J'ai eu le privilège de m'impliquer dans notre structure de parti. On avait eu aussi à l'époque des investitures pour choisir des candidats dans des quartiers de la ville. J'avais fait un processus, mais à ce moment-là, avec la mécanique qu'on avait, ma candidature n'avait pas été retenue à ce moment-là par les membres. C'était les membres qui votaient. Et puis, j'ai eu la chance, comme je dis, d'être impliqué, d'avoir d'assez près quand même une structure, l'organisation d'un parti politique, puis connaître M. Demers, qui pour moi est un ami. Marc Demers a fait beaucoup à Laval dans les dernières années. Et puis, de fil en aiguille, les semaines avançaient, la période électorale s'en venait. Et puis, j'ai eu l'occasion de signifier mon intérêt à faire vraiment le grand saut. Et puis, là, avec le bureau, ben, je dois le dire, mon équipe au bureau, ils le savent. Je les ai remerciés déjà. Là, ils le savent très, très bien. Puis les gens peuvent se reconnaître. Ce que j'ai vraiment, moi, apprécié du côté de mon employeur principal de l'époque, évidemment, c'était de m'avoir accompagné, de comprendre. Moi, l'année de l'élection, j'ai travaillé tout l'été et je dirais au début de l'automne, j'ai eu la chance de m'absenter, j'avais retardé les vacances. Puis l'équipe avait composé avec ce choix-là. Et c'est après l'élection que là, j'ai eu à prendre la grande décision de dire je vais prendre un congé sans rémunération parce que là, j'étais conscient que j'aurais nu aux citoyens de l'autre ville. J'aurais nu à mes citoyens de Vimont, puis pour moi, c'est, je l'ai mentionné tantôt, c'est ma première priorité. Puis la confiance de M. le maire de faire une implication dans des dossiers tellement intéressants. Donc, ça a été une bonne décision à prendre, mais encore là, l'équipe m'a supporté là-dedans. J'étais chanceux.
Chanceux, ou tu as peut-être fait un peu ta propre chance, je dis ça de même.
Oui, oui. Mais je voulais... chanceux, peut-être pas de bon terme. L'équipe a été compréhensive dans le sens que je n'ai pas senti de... Je n'avais pas senti à ce moment-là de Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse. Tiens. C'était vraiment qu'est-ce qui pouvait mieux me convenir. Puis ça, je l'ai apprécié beaucoup.
Tu as mentionné aussi que c'était une décision familiale. Je recule vite un peu de mathématiques, là, mais tes enfants étaient pas trop jeunes à ce moment-là. Mais comment la décision se prend sur le plan familial? Parce que c'est un gros engagement. Puis il y a aussi la dimension qui, moi, me ferait certainement réfléchir à deux fois par les temps qui courent. La visibilité des politiciens, même ceux qui ne sont pas à la tête, mais pas juste les maires et les premiers ministres, tu sais, a un effet sur la famille aussi, peut-être plus qu'avant encore. Comment cette décision-là se prend pour vous?
Ben, la décision, je prendrais le terme chance, Brigitte, tu vas me dire, arrête de me parler de chance. Mon épouse, elle a toujours évidemment su mon intérêt. Avec ça, déjà depuis longtemps, puis j'admire mon épouse, puis je l'aime immensément parce qu'elle a pris. La réflexion a toujours été, ben, si ça te fait plaisir, vas-y. Je vais suivre. Je vais accompagner. Et non pas le tiraillement. Puis je peux comprendre l'autre côté de la médaille. Aisément, je peux facilement le comprendre, mais j'ai toujours eu cette chance-là de pouvoir compter sur mon épouse qui est toujours accompagnée. Puis plus qu'accompagnée, elle a fait également campagne. Fait que donc, il y a l'engagement, puis je le mentionne à tous les citoyens, c'est vraiment un engagement familial. Mon épouse, dans les événements, lorsqu'elle a la chance de venir, ça lui fait plaisir d'être là. Fait que c'est. Donc, j'ai été. Je dirais chance, mais c'est pas le terme, mais c'est un beau choix de vie qui a été fait ensemble. Et avec les enfants aussi.
Il y a des aspects négatifs à tout ça?
Non, parce que à date, non. Je vais le dire comme ça.
On se croise les doigts.
On se croise les doigts. Non, mais dans le sens, moi, c'est de la passion aussi. Ça, c'est un terme, je peut-être plus le mentionner un peu avant. Il y a de la passion là-dedans. Cette fonction-là peut être faite 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a tout le temps de quoi faire. Il y a tout le temps de quoi réfléchir. Il y a tout le temps... je me mets moi-même certaines balises parce qu'il doit exister quand même des moments. J'y prends ces moments-là parce qu'ils sont importants. Mais le fait de faire des choses quand on est passionné, et chaque personne, pour moi, a une passion. Moi, je le dis toujours à la blague, Brigitte, on peut me parler de cinéma, je vais être capable de dire ce que j'ai entendu peut-être au bulletin de nouvelles. On peut me parler de hockey, je vais être encore le même raisonnement. Chaque personne a une passion. Moi, je me considère... la vie m'a privilégié, j'ai travaillé fort, les citoyens m'ont accordé leur confiance. Ça, c'est un privilège. C'est pas il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ça. Là. C'est une belle marque de confiance. Mais à ce moment-là, là, lorsqu'on a de la passion dans la vie, à mon humble avis. C'est pas tout le temps évident dans le travail. C'est pas tout le temps évident des fois dans diverses sphères de la vie, on le sait tous. Mais lorsqu'on a... Mais on a tous un quelque chose. Il y en a que c'est la cuisine. Il y en a que ça va être d'être le spécialiste, comme je disais tantôt, du film. Puis qui vont être passionnés de film. Puis peut-être qu'ils ont la chance de travailler en cinéma, d'être sur un plateau, d'être... Peu importe. Moi, c'est ce que je souhaite à tout le monde.
As-tu des regrets? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé faire, que tu n'as pas encore eu la chance de faire, puis tu te dis la fenêtre d'opportunité est peut-être fermée, ou des choses que tu as faites, puis que tu te dis ça aurait été mieux de passer un autre appel plus vite?
Non, regrets. La première, vivre dans les regrets, on le sait que c'est pas bon. Hein? C'est la première chose.
Il faut que ça sorte. C'est mieux de la laisser sortir si tu en as.
Non. Avec le dans la carrière professionnelle, à un moment donné, tu dis bon, pas avoir été mais des scénarios, non, sincèrement, pas de regrets, rien de précis. Des fois, peut-être se dire une opportunité d'époque, peut-être, où ça m'aurait mené. Ça, un peu comme tout le monde des fois. On peut avoir mais vraiment des regrets massifs, dire ça là, c'était le moment charnière, je l'ai loupé. Non, je me considère Non, la vie, hein, la fameuse théorie du verre à moitié vide ou à moitié plein? Toujours mieux quand il est à moitié plein qu'à moitié vide, à mon humble avis. Voir la vie à moitié vide, il faut être dans le positif. On vit des semaines, des mois, une période qui n'est pas nécessairement collectivement évidente, là. C'est très particulier. Il faut être conscient de ce qui bouge autour de soi, mais vivre dans les regrets ou vivre dans le passé, non. Puis à 47 ans, bientôt 48, non, je veux pas peut-être être philosophe, mais je veux pas non. Regret peut-être à 80, mais je sais pas, si j'en ai pas là, je sais pas ça va être quoi à 80.
Mais là, tu viens de me donner l'idée d'une question. Je t'avais pas averti que j'allais te demander ça, mais qu'est-ce que tu voudrais pas regretter? Qu'est-ce que tu veux être sûr de faire? Tu sais, il y a le concept de bucket list aussi, mais justement, ouais. Tu sais, si on se parle quand tu as 80 ans, là, qu'est-ce que tu veux être sûr de pas avoir manqué, de pas avoir oublié de faire?
Ben, il y a certains voyages qui ne sont pas faits encore que j'aimerais faire. Ça, je pense un peu. Mon épouse m'a parlé de l'Italie. Ben, l'Italie, je vais la suivre, mais j'adore. Mais j'ai hâte. Ça, j'ai hâte. Yep. Certains voyages, peut-être, c'est à côte ouest. Los Angeles et compagnie me fascinent un peu. Tu as la chance d'être dans une belle partie de notre grand pays aussi.
Donc, il y a de l'urbanisme intéressant par ici. Il faut que tu viennes faire un tour à Vancouver.
Oui. Non. Vous êtes. Vancouver est la porte d'entrée, premièrement, du Canada, et puis avec toutes les influences. J'imagine une voie architecturale. Non, ça, effectivement. Non, des voyages. Si j'arrive, si bien sûr j'ai le destin, je ne sais plus comment qualifier, là. Mais mettons que la vie m'amène, c'est le bon terme, m'amène à un âge respectable. La partie voyage, ça, je veux pas louper ça. Professionnellement, je dirais, continuer à faire ce que je fais, d'être vraiment, je fais mon maximum. Je fais vraiment mon maximum, puis... La journée où je vais cesser de faire ça, ça serait peut-être de quoi que je regretterais, parce que je veux pas, c'est pas dans mon ADN.
Parlons à l'opposé des regrets. Parle-moi de quelque chose qui te rend fier, puis je vais te demander d'être bien précis, encore une fois sans nommer de nom, mais parle-moi, dessine-moi une vignette de quelque chose qui t'amène beaucoup de fierté.
Je dirais, je vais aller avec ma vie familiale. La naissance des deux enfants, la naissance de ma fille qui est née en premier, qui est l'aînée, si on peut dire. À ce moment-là, il n'y a pas de... Être parent, c'est pas une finalité dans la vie. Je conçois aisément une personne pour toutes sortes de raisons. Puis je ne jugerai jamais personne. Chacun fait ses choix en fonction de sa vie, du contexte, du moment, peu importe. Mais quand je me mets dans ce que j'ai vécu comme parent, la naissance de ma fille, mon garçon par la suite, mais la première, ça a été ma fille. J'ai revu mon père tout de suite après, puis l'impression était particulière de dire... Mon père va toujours rester mon père. Je vais prendre ce que mon père me dit tout le temps, que tes parents, toute ta vie, peu importe l'âge de tes enfants. Mais cette journée-là, j'ai vu que si j'étais père, moi aussi, le flambeau s'était passé. Ce moment-là est charnière. Ça s'accompagne, évidemment, on le sait tous, de responsabilité. T'es plus jeune, là, pas tomber dans le cliché, mais la fameuse bouche à nourrir, ça prend ci, ça prend ça, le CPE. S'assurer les bancs d'auto, bon, tu sais, toute la mécanique.
Les maudits sièges d'auto.
Ah, les maudits, oui, les maudits sièges d'auto. Mais non, ça a été un moment, il n'y a pas de mots. Hein.
Sur le plan professionnel, est-ce qu'il y a soit un problème que tu as réglé ou un changement que tu as apporté qui t'a... particulièrement, puis même si peut-être ça n'a pas été remarqué nécessairement par d'autres, tu sais, si tu n'as pas une médaille, là, mais toi, tu te dis, je suis donc bien content d'avoir réussi à faire ça. Est-ce qu'il y en a quelque chose qui vient à l'esprit?
Je voudrais pas mélanger les dossiers villes, là. L'entrevue, on le fait, tu sais, sur notre.
Ouais, sur le plan personnel, là,
C'est ça. C'est ça. Mais non, il y a des. Ah, au niveau professionnel, évidemment, il n'y a pas un truc très précis. Tu sais, au niveau de ce que je fais ville, comme je dis, je ne veux pas l'amener.
OK.
Au niveau. Mais non, il y a des trucs, évidemment, qui me rendent très, 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 très fier. Très fier. Ça, je vais donner une esquisse, là. La protection de l'environnement, là, c'est de quoi que je suis très, très fier.
C'est un aspect important pour toi.
Oui.
On va y revenir dans un tout petit moment parce que j'aimerais qu'on se tourne pour parler d'avenir, mais on va faire une parenthèse avant de parler de l'avenir, de notre avenir collectif. Parlons un peu de la question du corps. On en a juste un, apparemment, même si on peut faire réparer des morceaux, même il y a des pièces de remplacement pour certaines pièces, mais pas pour tout. Dans la quarantaine, plusieurs d'entre nous expérimentent, vivent avec des changements, le vieillissement. Comment toi, tu vis avec la question de ton corps alors que tu approches de 50?
Là, je vais peut-être faire sourire les gens, là, mais c'est pas sur mon programme, ça, pour l'instant. Dans le sens que c'est une discussion que j'ai eu avec un collègue au bureau, un très bon collègue avant l'aventure politique, là, puis la discussion de l'époque était que le 40 était l'ancien 30 ou le nouveau 30 ou, et vice-versa, que le 50, c'est le 40. Bon, ça fait cliché. Je suis conscient que quand je regarde la date de naissance, je le sais que j'avance. On le sait tous. Quand j'ai le bonheur de rencontrer des gens très âgés, des gens qui ont 80, 90, je suis très à l'aise de dire on va tous arriver, et c'est ce que je me souhaite, d'arriver à cet âge-là. Puis je suis conscient que la vie va transformer le corps et. Mais moi, personnellement, là, pour l'instant, 48 bientôt, oui, je sais que 50, mais je me sens pas. Mon grand-père est décédé à 49 ans. Le père de mon père est décédé à 49. J'ai eu une réflexion l'autre jour de dire, hey, je vais l'avoir à 49 dans 2 ans. Décédé à 49 ans, ça n'a aucun sens, non? On s'entend tous. Mais je me sens-tu. Non, moi pour l'instant, c'est pas. Je suis conscient, mais j'ai pas. Je le vois pas comme une. C'est un gros terme, là, fatalité. C'est le fameux hey, tu viens d'avoir 50. Moi, je fais toujours la blague, à chaque fois que quelqu'un sait sa fête, je dis écoute, j'ai peur d'avoir ton âge. Puis évidemment, quand je le dis, ils sont tous plus jeunes. Fais toujours rire tout le monde. Mais non, je le vois pas. Je suis pas dans cette. Je suis pas attaché à l'âge. Faut dire aussi. Ça, je ne l'ai peut-être pas mentionné. Ma conjointe est préposée dans un CHSLD. Avec le regard sur le vieillissement est teinté un peu. On a des bonnes discussions, évidemment, très générales là, sur le vieillissement. Et c'est pour ça un peu, tantôt, je disais, exemple, faire des voyages, faire des trucs, reporter à plus tard. Si je ramène avec la question de l'âge. Je sais que des fois dans la vie, puis je m'inclus, des fois on peut pas faire nécessairement tout ce qu'on voudrait faire au moment qu'on voudrait le faire. Des fois, on a tendance à reporter. Mais je suis quand même de l'école de dire, si on est capable de le faire actuellement, tu as les sous, tu es capable de le faire, tu es capable de te déplacer. Demain, j'espère être autant en forme. Mais je suis pas non plus de vivre à fond la caisse, puis faire sourire des gens, vider les REER, puis partir sur la Rumba, là. Mais je ne suis pas là-dedans. Peut-être à 5 ans. Peut-être si tu changes de formule puis qu'on va être dans la cinquantaine parce qu'on vieillit tous. On comparera les enregistrements, Brigitte.
Dans 10 ans, on va se faire un party d'écoute. Alors, on va écouter les anciens épisodes. Puis ça va être comme des retrouvailles, mais pour la cinquantaine, on va voir comment ça se passe. Je te donne.
Ouais.
Deux baguettes. Bah non, pas tout de suite. Je ne te donne pas de baguette magique tout de suite. Garde ça en tête, je vais t'y revenir. Mais parle-moi un peu de comment tu vois l'avenir, la deuxième moitié de ta vie, les choses que tu voudrais faire, les orientations que tu voudrais prendre, comment tu imagines la vie, peut-être même après la politique, s'il y en a une. Parle-moi de ça.
Il n'y a pas de plan précis pour l'instant parce que avec l'engagement actuellement, c'est tellement prenant que il y a une vision sur un an, deux ans, trois ans, mais une grande vision long terme, pas nécessairement pour tout de suite. Peut-être la retraite, ça va dépendre de plusieurs facteurs, mais je reviens un peu à ce que je mentionnais tantôt, essayer de profiter de la vie. Fait que les grands projets, retarder les grandes choses pour le fameux plus tard, non. Ça, je ne suis pas de cette école-là. Voyage, j'en ai parlé. Ça, c'est des trucs que j'apprécierais faire. Être le plus en forme le plus longtemps possible. Prendre soin de ma santé, ça, c'est un enjeu. Pas un enjeu, mais je dois un petit surplus de poids ces jours-ci. Il faut que je fasse plus attention. Je te le place dans le contexte de la continuité, évidemment. Tu sais, être en forme, on le sait tous, va aider pour la suite. Mais le plus longtemps possible, là, on se projette sur les 40 prochaines. Évidemment, comme tout le monde, le plus longtemps possible à la maison. J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour le travail que fait mon épouse, puis la qualité des soins qu'elle donne. Je le sais que c'est comme une extension de la famille. J'ai aucun doute. Et ces centres-là ont leur raison d'être parce que parfois, on n'est plus, les gens sont plus capables d'être à la maison. Mais je suis un peu, évidemment, comme tout le monde, on va tous vieillir, mais je ne vois pas comme le nuage noir, là. Essayez d'être à la maison, profitez de la vie. Peu importe ce que les prochaines années à court terme vont m'amener, pour moi, c'est du bonheur. Être capable de partager, par contre, des connaissances, redonner. Quand on est rendu à un âge un peu plus vénérable, on peut se permettre des fois. Bénévolat, même actuellement, des fois, il y a des trucs que je fais, des trucs que je voudrais faire un peu plus. Mais l'horaire, des fois, est particulier. Là. Déjà, de faire ce que je fais, c'est beaucoup. Mais dans un projet de retraite, exemple, là, être capable de donner du temps pour des organismes, ça, c'est sûr et certain que ça serait sur le... Ça va être sur ma bucket list.
Pour ton ordre du jour, pour un peu plus tard, j'ai une question pour toi. J'en profite parce que j'ai un politicien devant moi, mais je te pose cette question-là à titre personnel. J'ai l'impression quand tu dis, tu sais, bon, c'est comme si tu venais juste de commencer, ça fait un an et demi que tu es en poste, mais qu'est-ce qu'on va faire cette année, l'année prochaine, l'année suivante? Il y a ce cliché-là qu'on dit que les politiciens pensent aussi loin que la prochaine élection, mais moi, je trouve ça injuste parce que à beaucoup d'égards, il y a tellement de choses à faire dans la sphère publique que juste t'occuper du quotidien, puis effectivement des deux, trois prochaines années, là, c'est déjà pas mal. Mais en même temps, tu as fait allusion plutôt quand on parlait des rôles possibles au niveau municipal, tu as fait mention des grands enjeux environnementaux, le changement climatique, tous les enjeux de milieu de vie, d'urbanisme, d'habitation, tout ça. T'sais. Quand tu penses à l'avenir, comment tu vois ta capacité, quel que soit ton rôle, d'agir dans ce sens-là. Je sais pas si comment tu maries les deux perspectives de il faut survivre au quotidien, tu sais, il faut s'occuper des problèmes qu'il y a devant nous, mais aussi avoir en tête pas juste les arbres, mais la forêt au complet.
Non. Ça, on touche à ce moment-là une vision. Déjà de moi, je pourrais bien phraser ça. Déjà, de s'impliquer dans les comités, dans les tables de discussion, puis une vision, puis je ne veux pas le ramener juste à une équipe politique, mais peu importe les municipalités, chaque groupe ou chaque personne peut avoir une vision. C'est de la mettre en œuvre, évidemment, d'y allouer les ressources, mais d'avoir une vision. Puis si j'extrapole ou je m'étire sur une vision, l'enjeu de l'habitation est majeur pour notre époque. Déjà, pour les les gens qui nous écoutent, qui vivent évidemment dans le Grand Vancouver, j'ai beaucoup d'empathie, c'est peut-être le bon terme, parce que ce qu'on voit ici à Montréal, ou la réflexion qu'on entend souvent, évidemment, Vancouver, Toronto, le coût d'habitation dans la partie centrale, de ce que je vois dans mes yeux, là, semble vraiment hors de prix ou en tout cas discutable. Évidemment, toujours une question de niveau de vie, là, mais peu importe. Non, ma contribution, en tout cas du moins, j'ai le bonheur d'être une table d'habitation avec la ville, ici, avec l'équipe. Vraiment, puis on esquisse, on travaille fort. Fait que c'est vraiment d'avoir l'implication politique dans les... Il y a une gestion quotidienne, une gestion des travaux, exemple, de l'année ou de l'année suivante. T'en as fait mention, puis c'est vrai qu'il y a une partie qui est très terre à terre, qui est très calendrier, mais dans l'autre partie du travail qu'on fait, il y a une partie planification, une partie vision, une partie discussion, échange avec divers partenaires. Puis la vision, déjà la ville a certains outils, déjà il y a certains documents qui sont en place. C'est pas qu'il y a déjà des cadres, mais les pousser plus loin. Puis ma contribution à ça, moi, c'est d'essayer le plus possible de faire entendre, évidemment, ma voix à travers, dans le respect des partenaires ou des autres personnes. Mais une vision, j'en ai une. Une vision, je souhaite... Ça va peut-être faire fleur rose, là, mais un monde moins d'inégalités sociales, évidemment, moins n'étant même pas d'inégalités, mais en tout cas, dans un contexte, une accessibilité à l'habitation, une accessibilité à des milieux de vie de qualité, pouvoir respirer un air de qualité. Au Québec, actuellement, il y a des vastes discussions sur la décarbonisation, évidemment, de l'économie. Ben, on est dans une époque, je pense, au sens très large, d'un point de bascule. Après la grande industrialisation, on est parti du... On se remet, tantôt tu disais 400 ans, là, mais on est parti vraiment du territoire très rural, agricole, les gens sont arrivés en ville, certains outils, on a industrialisé. Par la suite, en Amérique, les grandes industries majoritairement ont cessé ou se sont transformées. On est à l'ère du numérique, mais il y a autre chose aussi dans le B.A.B.A. de la vie au quotidien. Je pense qu'on est au seuil, on le voit, là, mais probablement que dans 5 ans, j'espère, ou dans 10 ans, ça va être encore mieux pour l'environnement, puis les gaz à effet de serre. Puis les gens faisaient mention, là, tu sais, le changement climatique, mais là, on parle plusieurs personnes parlent maintenant d'adaptation au changement climatique. Ce qui est un autre que je ramène au sens politique, ben d'être là, d'adresser les bonnes questions aux bons endroits pour tirer les bonnes visions, puis faire partie d'un vaste mouvement collectif, planétaire peut-être. Le système doit changer, doit évoluer. La place du pétrole, peu importe, là, c'est pas juste le pétrole, mais bref.
Il y a des changements sur lesquels c'est possible de travailler. Alors, effectivement, dans 10 ans, on s'en reparle.
Oui.
Écoute, Pierre, c'est le moment, c'est le bonus, l'avantage de participer à la quarantaine, c'est que je te donne 2 baguettes magiques.
OK.
Et t'en as 2, ou tu peux faire 2 souhaits, je suis un peu cheap. C'est pas comme le génie de la lampe qui en donne 3, là, j'en ai juste 2. Puis il y en a un que tu peux utiliser pour changer ton monde, quelque chose qui fait directement partie de ta vie que tu aimerais changer, mais que tu n'es pas tout à fait capable présentement, mais qu'est-ce que tu voudrais faire? Et l'autre vœu que tu peux faire, l'autre souhait, c'est pour changer le monde. Et sky's the limit, tu peux t'en servir comme tu veux. Alors, choisis avec lequel tu veux commencer, puis vas-y.
Je vais y aller avec le monde, parce que ça nous impacte tellement trop au quotidien. Avec l'aide de ta puissante baguette magique, j'impose à la Russie, je vais les nommer, qui cesse leur guerre d'invasion de l'Ukraine. Je veux pas partir de... Mais c'est abominable. Toutes les guerres, puis pas plus, mais on se comprend, toutes les guerres ont aucune raison. Aucune raison. Chaque pays a ses ressources. On me semble. En tout cas, on nous avait appris qu'il y avait des forums. L'ONU existait à une certaine époque. blagues existent toujours, mais des atrocités, oui, ma première baguette magique, cesser immédiatement la guerre en Ukraine, puis parce que ça a tellement de conséquences sur la vie de tout le monde sur la Terre. Les grains qui ont de la difficulté à quitter le pays, des gens qui doivent, j'ai de la misère à le dire, mourir de faim à cause d'événements de ricochets. Fait que, merci pour la première baguette magique. J'ai l'impression d'avoir réglé de quoi, mais...
Je l'apprécie beaucoup. Merci, Pierre.
Ça se fait.
Excellent. Alors, ton autre baguette magique, tu peux t'en servir de façon un peu plus égoïste. Vas-y.
Oh mon Dieu, plus égoïste. Baguette magique. Ah. J'irais que le bonheur plutôt autour des personnes autour de moi. C'est pas obligé d'être juste pour une personne, hein, Brigitte? Tu me donnes ce pouvoir-là?
Ton monde. Tu l'utilises autour de toi, oui, c'est ça.
Non, les gens que j'apprécie, que je connais, qui aient le bonheur, mes parents, la santé, ma famille, mes enfants, qui aient une belle vie, des bons emplois, qui n'aient pas de soucis. Répandre le bonheur autour des gens que je connais, là, déjà avec ce pouvoir-là, ça me rendrait très heureux parce que beaucoup de gens qui m'apprécient, mais beaucoup de gens surtout que j'apprécie, puis être capable de les aider. Ça va dans le sens de mon engagement personnel.
Merveilleux. Et celle-là, c'est vraiment ma dernière question. Quel héritage souhaites-tu léguer? Au sens large, au sens que tu veux.
Oh! Il y a diverses sphères, l'héritage. Tu sais, Brigitte, pour te faire sourire un peu. J'ai vu des émissions... Puis même quand on y repense, les gens vont se rappeler de nous sur à peu près une ou deux générations maximum, plus ou moins. Je parle pour les individus. J'ai le privilège d'être maintenant dans un inscrit de... Mon nom est inscrit dans un registre officiel. Tu sais, ça, c'est une chose. L'héritage, je le ramènerais, mes enfants surtout. Si on parle d'héritage, ça veut dire qu'on n'est plus là, ouais. Non, mes enfants, ma famille, les gens proches se rappellent de moi. L'héritage, ne pas être oublié, c'est déjà beaucoup. Je pourrais le prendre de d'autres façons en politique et tout ça. D'avoir marqué mon époque, ça c'est clair. Je souhaite que les gens se rappellent de moi pour ce que je fais, pour ce qu'on va avoir fait. Mais vraiment, là, les gens proches, les valeurs que j'essaie de transmettre à mes enfants, puis... Ouais, ça, héritage, ouais. Ouais.
Merci à mon invité Pierre Brabant, un élu dévoué à sa ville, et merci à vous d'avoir passé cette heure avec nous. Pour réagir à ce 22e épisode de La Quarantaine ou pour me suggérer le nom d'une personne interviewée, visitez-moi sur Instagram, laquarantaine.balado, ou écrivez-moi à bonjour@laquarantainebalado.com. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de revenir la semaine prochaine pour une autre conversation.